Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Nous sommes le 2 novembre ici à la salle du Môle. La salle du Môle, c'est au Paquis. Ça se situe à la rue éponyme, au 21 précisément. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en compagnie de deux personnes qui vont se présenter, deux personnes qui font partie de la troupe La Cavalcade en scène et qui proposent un spectacle d'hier d'ailleurs, qui a commencé hier et qui a cours aujourd'hui et encore la semaine prochaine. Mais tout cela, on va en parler un petit peu plus tard. Le spectacle s'appelle Annie. Alors bonjour à vous. Peut-être que nous pourrions commencer par votre présentation et par dire ce que vous y faites dans ce spectacle.
Ok, je suis Maria Alice et j'ai rejoint la Cavalcade il y a quelques années. Et il y a quelques années, j'ai commencé à travailler sur cette solo que ça, oui, il est allé sur scène en mai 2019 et maintenant on veut que ça tourne un petit peu. Et moi, je travaille principalement en Italie, à Milano. Et aussi à Neuchâtel avec la Cavalcade. Et voilà.
Pour le moment, c'est tout.
Voilà. J'ai écrit et je joue cette solo. Mm-hmm.
Et moi, c'est Élise. Je fais partie de la Cavalcade en scène depuis le tout début. Voilà, donc j'ai participé aux 4 créations de la compagnie de manière différente, en faisant plein de choses différentes. Parfois sur scène, parfois pas. Alors pour ce spectacle, Annie, je suis pas sur scène. Voilà, j'ai été regard extérieur, j'ai un peu bricolé, j'ai fait différentes choses.
D'accord. Quelques mots peut-être sur la Cavalcade en scène. Depuis quand existe-t-elle, cette troupe? Et voilà, quels sont les spectacles qui sont en gestation? Parce que là, on a bien compris qu'on va parler aujourd'hui de Annie. On va parler de ce que cela contient. Mais il me semble-t-il qu'il y a déjà des choses en gestation pour ces prochains temps.
Oui, donc en fait, la Cavalcade, ça fait 4 ans qu'elle existe et on a 4 spectacles créés, certains qu'on ne joue plus et d'autres qu'on joue encore. Donc 2019, c'était une année vraiment riche, il y a 2 créations. Donc il y a Annie qui est sortie en mars à Milan et puis cet automne, il y a encore le petit dernier solo aussi qui est arrivé. Donc ça, c'est mon projet à moi, ça s'appelle Alter Ego. Et c'est, comme Annie d'ailleurs, aussi un spectacle assez engagé et féministe.
C'est important pour toi l'engagement au théâtre? Est-ce que ça va de pair d'une certaine manière?
Alors, je dirais que c'est pas une démarche, enfin c'est pas une volonté, c'est pas une décision, mais c'est un peu par la force des choses. Enfin, scène, je crois, quand on crée, on parle de choses qui nous touchent et donc de choses qu'on a envie de défendre ou qu'on a envie de partager. Donc oui, enfin ça va pour moi. De cette façon-là, ça va te perdre avec un engagement. Mmh. Mmh.
Est-ce que c'est cela également qui est le ciment, d'une certaine manière, de la troupe? Est-ce que ça fait partie, justement, de ces choses qui vous rassemblent autour de cette troupe, la Cavalcade, en scène?
Je dirais qu'on se rassemble plutôt autour des projets, en fait. C'est vrai que l'équipe de la Cavalcade a beaucoup bougé. C'est une structure qui est un peu mouvante. Et pour chaque création, il y a des impulsions qui viennent de personnes différentes. Et c'est aussi des équipes assez différentes qui se réunissent à chaque fois, donc ce qui apporte aussi une richesse.
Et comment est-il ces projets? Est-ce que c'est des coups de cœur de quelqu'un qui amène ça sur la table? Est-ce que ce sont des créations originales? Est-ce que ce sont des choses auxquelles... Est-ce que ça concerne nos vies? Est-ce que vous vous inspirez de vous-même? Y a-t-il une part autobiographique là-dedans?
Mais comme toujours, il y a une partie... On part toujours de nous, au final.
C'est un peu comme pour les auteurs, on dit que si on écrit, on passe sa vie à réécrire le même livre.
Ouais. Mais je pense que ça dépend de spectacle en spectacle. Donc pour cette histoire-là, moi, en fait, il y a un livre écrit sur Annie. C'est le seul livre écrit sur elle. Et moi, j'ai lu ce livre il y a quelques années et j'ai trouvé l'histoire incroyable. Et dedans, il y a tellement de thématiques différentes que j'ai trouvé aussi les miennes dedans, ça c'est sûr. Et la chose intéressante, c'est que la thématique qui me pousse, qui me transporte, ça change d'année en année. Donc il y a des périodes dans lesquelles c'est les voyages, les périodes dans lesquelles c'est la partie plus féminine, plus féministe peut-être. Et donc ça, oui, il y a beaucoup de choses, aussi les thèmes des médias, parce que cette femme, elle a beaucoup joué avec les médias, avec les journaux.
On va revenir là-dessus, hein, parce qu'elle elle a inventé une histoire autour de son histoire.
Elle a inventé beaucoup des histoires, ouais. Et donc voilà, je pense que ça change de spectacle en spectacle, ouais.
D'accord. On ne l'a pas encore dit, le site internet de la compagnie, c'est
www.lacavalcade.ch.
Super. Le spectacle aura lieu donc le 2 ce soir, le 3, le 8 et le 9 novembre. C'est les vendredis et samedis à 20h et le dimanche à 17h. Les réservations sur www.mqpaki.ch. Mqpaki avec un S à la fin, .ch. C'est ça, hein?
Mm-hmm. Voilà, exact.
Alors, excellent. Annie, ça c'est le nom du spectacle. Annie Cohen-Kopchowski. Je l'ai fait, je voulais le faire, c'était le challenge. J'ai bien prononcé, crois-je? Ou pas,
vous allez
alors vous allez me démentir.
C'est magnifique, mais... pour être la première fois.
Je voulais commencer comme ça. Le 20 octobre 1895, le New York World avait déclaré qu'il s'agissait, je cite, du voyage le plus extraordinaire jamais entrepris par une femme. Fin de citation. Alors, Annie, eh bien, c'est cette personne cycloféministe, pourrait-on dire, pour résumer très, très succinctement et vous allez compléter, qui, à un moment donné, à l'âge de 23 ou 24 ans, très jeune donc, 23 ans, oui, décide de tout quitter, mari et enfant, parce qu'elle est maman déjà à cette époque-là, dans un temps qui est un petit peu compliqué, en tout cas qui n'est pas le même que maintenant. Elle décide de tout quitter et de faire un tour du monde à vélo, c'est ça?
Exactement, oui.
Alors, vous qui avez habité Annie, eh bien, comment est-ce que, dans quel état d'esprit vous vous préparez? Déjà, comment est-ce qu'une idée pareille peut surgir dans l'esprit d'une personne? Et dans quel état d'esprit on est lorsque l'on part ce 20 octobre 1895?
Ben, je pense qu'ici, c'est vraiment une question de aussi classe sociale, parce qu'elle était très pauvre. Et donc, oui, elle a transformé toute la rage qu'elle avait pour le fait que c'est difficile d'arriver à nous, d'être, il voulait être journaliste en fait, et elle a transformé cette rage dans une façon créative. Elle a décidé de faire quelque chose qui dans cette période là était assez à la mode, c'est-à-dire de faire des voyages, voilà, c'était l'époque de Jules Verne et tout ça.
Des grands défis aussi.
Voilà. Oui. Et...
D'ailleurs, elle n'était pas seule, hein. Elle l'a fait à vélo, mais d'autres personnes l'ont tenté de manière différente.
Oui, voilà, alors, des hommes plutôt, hein, mais c'était la grande mode de dire, voilà, je vais parcourir telle distance dans un temps donné avec tel moyen de transport. Et puis, il y avait aussi les médias qui étaient à l'affût de ce genre d'histoire et le public était très friand de ça.
Il avait besoin de ça, oui, le public.
Et puis Annie, elle a été très forte parce qu'elle a vraiment su exploiter en fait cette tendance pour faire parler d'elle en faisant ça.
Ce qui est assez fou, c'est qu'elle-même pratiquait peu le vélo, dit-on. Ce n'était pas une sportive émérite
ou
quoi que ce soit.
Non, pas du tout. Et ça, c'est incroyable, non? Il était vraiment doué pour ça, en fait. Mais même les livres le disent. Et oui, mais c'était vraiment la force... de cette ambition qu'elle a poussée, la force de la liberté, de sa volonté d'être soi-même, quoi.
Alors elle quitte oui, pardon, j'ai interrompu quelqu'un.
Non.
Donc elle quitte Boston, elle part de Boston, hein, le 25 juin 1894, et devant les marches du palais du gouvernement, eh bien, donc à 23 ans, sans argent, sans rien, munie de son vélo et de ses quelques habits,
voilà,
de circonstances, hein, d'ailleurs, elle a même pas prévu des habits spéciaux. Par la suite, il me semble qu'elle va, mais vous allez me dire mieux que moi à vous, elle quitte vraiment à la sauvage d'une certaine manière, en disant je m'en vais, quoi, j'y vais. C'est ça?
Oui, alors non, c'est quand même assez préparé.
Oui,
hein,
elle a quand même
convoqué les médias, elle a fait cette petite cérémonie de départ. Voilà, elle savait très bien parler, se mettre en scène, et donc le départ a fait du bruit. Enfin, elle a été. C'était. Ouais, presque on peut dire même une bête de foire, parce qu'il y avait aussi les journalistes qui trouvaient ça génial en même temps qu'une femme fasse ça, mais ils trouvaient ça génial aussi parce que ça, c'était tellement incroyable et rare. Et est-ce qu'elle allait réussir ou pas? Donc ça faisait beaucoup jaser. Est-ce que c'est...
On l'attendait au détour, tu penses? Penses-tu?
Ah ouais, ouais.
C'est vrai?
C'est sûr, ouais.
Selon toi, il y avait cette... Parce qu'il faut recontextualiser, c'est vrai qu'on a du mal à se dire dans quel état d'esprit est-ce que les gens ont observé cette femme partir dans... Voilà, de manière assez... sans vraiment... Alors oui, vous parlez de préparation, effectivement, on va revenir là-dessus, mais matériellement, elle part avec, au départ, pas grand-chose, quoi,
ouais,
ou rien.
Mais ça, ça fait partie du pari, voilà. En fait. Que c'est un pari, on ne sait toujours pas historiquement s'il a existé ou pas. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On ne sait pas si... en fait, Annie a raconté à la presse que deux riches gentlemen de Boston auraient parié entre eux qu'une femme pouvait faire le tour du monde à vélo ou pas. Mais son neveu, qui a écrit un livre documentaire sur l'histoire d'Annie, ou petit-neveu, je crois.
Petit-neveu.
Petit-neveu. Ouais. Il n'a pas retrouvé de traces de ces deux gentlemen, ce qui est bizarre parce qu'apparemment, ça aurait été des gens en vue à l'époque. Donc, c'est un peu bizarre qu'il ait retrouvé aucune trace d'eux. Donc, l'hypothèse serait qu'Annie, en fait, ait inventé le pari lui-même, qui est à la base de son voyage.
Oui.
Et donc, elle aurait inventé le pari avec toute une série de règles. Donc notamment voilà, de faire le tour du monde en bicyclette dans un temps donné, 15 mois, mais aussi d'avoir à disposition seulement 5 centimes par jour pour ses frais, de partir seulement avec ses habits, enfin voilà, il y avait toute une série.
Elle parlait que l'anglais, en fait elle ne parlait pas des autres langues, mais il disait oui, je dois parler seulement l'anglais. Parce que c'était convenable pour elle. En fait, aussi les fausses règles, il les a inventées pour elle, donc il était très malin.
Ouais, ainsi que des histoires, parce qu'elle romance son périple, si je ne me trompe. Elle raconte des choses qui n'ont pas totalement eu lieu, mais pour, comment dire, épicer son parcours.
Oui, alors c'est génial, parce que c'est complètement fantaisiste. Enfin, elle raconte des aventures incroyables dans la jungle, à la chasse aux tigres, avec le prince du Sri Lanka, ou je sais pas quoi. Elle invente qu'elle est allée au front, au Japon.
Et c'était pas vrai. Et ça, c'est intéressant. Non, c'était une époque dans laquelle tu pouvais faire ça, parce que... Il y avait un rapport différent avec la presse. La presse, ils ne contrôlaient pas tout. Donc, et même si elle contrôlait, on s'en fout. On veut l'histoire. On veut l'histoire magnifique. Un peu comme maintenant. Mais maintenant, il n'y a pas moyen de mentir, je pense, ou pas.
On avait comme ça des imaginaires qui étaient du coup mis en avant beaucoup plus que maintenant. On est plus dans une période de contrôle et un petit peu sournoise comme ça.
Voilà, puis Annie, elle racontait finalement aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Et du coup, ça marchait parce que même quand c'était pas du tout crédible, les gens continuaient à la croire et une grande partie des gens la soutenaient. Alors, il y avait aussi des journalistes qui cherchaient à la démolir.
Alan
Kelly. De plus en plus... Évidemment, au fil qu'elle racontait des histoires plus improbables. Mais il y avait aussi plein de gens qui étaient fans. Elle arrivait dans des villes, elle donnait des conférences, elle rassemblait des foules.
Ouais. Alors, son nom, prononcez-le vous, c'est Annie...
Kotchowski.
Voilà, Annie
Kotchowski. Voilà, on ne dit pas le P.
C'était donc ça.
c'était donc ça.
Mais... ainsi nommée, également nommée Annie Londonderry, et c'est pas pour rien qu'on la nomme comme ça. Voudriez-vous nous dire quelques mots à ce propos?
Mais Londonderry, c'est celle qu'il a appris, en fait, qu'il a créé. C'est son alter ego. Voilà. Et c'est la marque d'eau. C'est une marque de.
C'est son sponsor.
Voilà,
en fait.
On peut dire que.
C'est son premier sponsor parce qu'en fait, il a été aussi. La première femme qui a utilisé beaucoup de sponsors pour sponsoriser son voyage. Et Londonderry, c'est le premier. Après, il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, il les collait partout dans son corps. Et ça aussi a été...
Ça a fait parler.
Ça a fait parler beaucoup. Parce qu'elle était jugée un peu...
Elle était mal jugée. Enfin, une femme avec des marques collées partout sur le corps, sur les seins. Enfin, évidemment, ça a fait aussi beaucoup jaser.
D'accord.
Non, déjà qu'elle avait laissé tomber la jupe et le corset avec lesquels elle était partie au départ.
Alors voilà, exactement. Première étape, elle est encore aux États-Unis. Après, elle s'embarquera pour Le Havre. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous voudrez dire quelques mots de quelques étapes qui l'ont conduite à faire ce tour du monde. Mais elle change de vélo assez rapidement et elle change d'habit également assez rapidement. Voudriez-vous nous expliquer un petit peu les circonstances de ce changement de matériel?
Oui. La première partie de son voyage, c'est vraiment le baptisme, quoi. Les débuts en plus. Et vraiment, il ne savait pas aller sur le vélo. Le vélo, il était vraiment hyper, hyper lourd. Vous imaginez, au début de 1900, les corsets, la jupe. Moi, au début du spectacle, je me suis, c'est clair, documenté sur l'habillement, comment il s'habillait. Et c'était vraiment une chose incroyable. Déjà, les femmes... Il a couché avec les corsets. Donc, c'était vraiment... Ils étaient des habits créés pour rendre la femme un peu handicapée, quoi. C'était vraiment pas fait pour bouger beaucoup.
Et le spectacle, en fait, commence par une scène de mouvement très belle où Annie, voilà, dans son petit appartement à Boston, s'habille. Donc une scène
qui est
suggérée. Il n'y a pas vraiment les habits. Enfin voilà, c'est pas un style de théâtre qui est réaliste, mais c'est en mouvement, c'est assez proche de la danse. Mmh. Et le spectacle s'ouvre sur ça, ouais. Les habits.
Parce que les habits, oui, ils comptent beaucoup dans ça. C'est vraiment, ils symbolisent beaucoup de la condition de la femme à cette époque-là. Et donc les débuts du voyage, c'était horrible vraiment. Et après, petit à petit, elle aussi, même si elle était très courageuse comme femme, elle s'est gênée. Parce que mentalement, c'était vraiment quelque chose d'enlever la jupe, d'enlever tout ça. Mais elle a dû le faire. Et elle a été vraiment une femme qui a inventé la tenue féministe, la tenue féminine.
Cycliste.
De cyclisme. Et désolée, moi, je ne parle pas.
C'est très bien. Et le vélo, alors? Parce que là aussi, elle en change assez rapidement, je crois.
Hein. Il a changé après un mois, ouais.
Parce qu'elle est passée d'un vélo extrêmement lourd et tout à un vélo qui était un petit peu plus adapté.
Un vélo pour homme, en fait. Ouais. Elle a passé un vélo pour homme. Elle est partie au début avec un vélo pour femme. Ouais. Donc, il faut savoir que c'était une époque où les médecins déconseillaient aux femmes de faire du vélo parce qu'ils disaient que ça pouvait rendre stérile et que ça pouvait même mener à des maladies qui pouvaient être mortelles. Donc, il y avait vraiment tout un débat là autour. Et puis, la bicyclette a été pas mal utilisée aussi dans les milieux féministes, desquels Annie ne faisait pas partie. Hein. Elle n'était pas engagée dans ces milieux-là. Mais ces milieux féministes utilisaient quand même la bicyclette comme moyen d'émancipation de la femme, et notamment justement en lien avec les habits.
Ce moyen-là court encore actuellement dans certains pays où c'est une revendication, code de faire du vélo, ou dans d'autres pays, code de faire de conduire une voiture. Ça reste encore des outils d'émancipation, en tout cas. Alors, je vais quand même te poser cette question, même si tu viens d'y répondre. C'est un peu l'époque des suffragettes également. On est un petit peu à cheval là-dessus. Alors, en Grande-Bretagne, elles sont considérées comme des terroristes. D'ailleurs, elles vont au charbon quand même. Hein. Elles se font quand même bien, bien bousculer. Certaines se font incarcérer, nourrir de force pour les grèves de la faim. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, Annie a-t-elle croisé ou a-t-elle entendu parler tout de même de ces combats, de ces luttes-là, ou en est-elle exempte?
Alors, on a entendu parler, c'est sûr. Hein. Mmh. Et peut-être qu'on peut même dire qu'elle a surfé sur la vague, en fait, qu'elle a aussi tiré parti de ça de façon très habile pour faire parler d'elle et nourrir le débat. Mais bon, moi, là, je pense que c'est plutôt nos convictions, hein, parce que voilà, il y a les traces historiques de l'histoire réelle d'Annie sont ce qu'elles sont, puis on n'est pas dans sa tête, donc on ne sait pas vraiment au fond ce qu'elle en pensait, mais. Moi, j'ai l'impression que elle a entrepris ce voyage vraiment. C'était une démarche vraiment personnelle. Donc elle a trouvé le moyen. Elle a été très très forte pour trouver le moyen pour se tirer de ce quotidien qui était insupportable matériellement par sa condition de femme et par la pauvreté en fait. Donc oui, c'est sûr qu'elle a entendu parler des suffragettes et elle a même repris ça dans certaines de ses conférences. Mm-hmm. Après, elle disait qu'elle donnait des conférences sur l'importance de l'exercice physique pour les femmes. Mais c'est venu un peu après.
Il a, dans ses rêves d'ambition, il a eu des exemples. Par exemple, il y avait cette femme, Nellie Bly.
Tout à fait.
Qui était une journaliste américaine et qui était féministe. Et Annie, des fois, elle signait, dans sa signature, elle signait Nellie Bly Jr. Ah. Donc, il avait un peu de... Oui, il avait des femmes à laquelle...
Il y avait des figures inspirantes.
Dans son voyage, voilà.
Nellie Bly, donc, qui a réalisé le tour du monde en solitaire en 72 jours. Hein. L'idée, c'était de faire en moins que des fameux 80 jours de Jules Verne, merci, voilà. Et elle a réussi d'ailleurs. Hein. L'idée, c'était de battre donc Phileas Fogg, le héros du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Alors, on peut dire qu'elle s'est tout de même inspirée de certaines
femmes, oui. Ça, c'est sûr.
Quel était le regard des autres? On en a parlé un petit peu au début, mais arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Alors déjà, sa famille, son premier cercle, son mari, ses enfants, comment est-ce que c'était un abandon pour eux ou c'était une pionnière, il fallait l'encourager? Est-ce que dans le spectacle, on aborde un petit peu ce regard d'autrui qui peut être de temps en temps, qui souvent est jugeant et souvent pas pour les meilleurs?
Ah, wow. Le mari, c'est un gros thème pour moi. Tellement grand qu'en fait, je l'ai laissé un peu de côté. Parce que je me suis demandé beaucoup la famille. En fait...
On sait peu de choses. Ouais. Sur vraiment la réalité historique. Donc là, ouais. On sait vraiment peu de choses.
On a vraiment ça, on a créé nous, en fait.
Voilà, nous, on ne sait pas... On ne s'est pas limité en fait à oui. la réalité historique, donc il y a aussi des choses évidemment qu'on imagine pour nourrir le personnage qui est dans le spectacle.
Oui, c'est un travail de fiction tout de même.
Enfin, bah oui, oui, oui.
Donc vous avez donc là où il y avait des zones de vide, vous avez en fait habité ces zones-là oui. avec vos imaginaires.
Avec plaisir, parce que vraiment, ils sont des zones blanches dans lesquelles tu peux créer beaucoup de choses, et donc les rapports avec les maris. Moi, j'ai imaginé. J'ai imaginé un soutien de la part de son mari. Et les enfants, nous, on sait que historiquement, au final, ils étaient quatre, les enfants. Quand elle est partie, ils étaient trois. Après, elle est revenue à la maison et elle a fait un autre enfant avec le mari qui l'attendait et qui l'a attendu. Et ils ont vécu comme une image de la mère un peu différente. Donc, ça changeait. Il y a quelques zones, il la détestait un peu. Des autres enfants, il l'adorait. Presque oui, c'était un symbole pour eux. Et je pense que quand tu es enfant, en fait, tu réalises pas ce qui est en train de se passer. Donc, c'était pas un choc pour eux.
D'accord.
Mais c'était.
Bon, il y en a quand même qui l'ont assez mal vécu. Hein. Il y a eu aussi après certains oui. qui ont été placés, du coup, à son retour de voyage, je me rappelle.
Oui, parce qu'en fait, quand elle est revenue, il a envoyé les enfants dans des collèges. Et donc, parce qu'elle avait l'argent pour le faire à ce moment-là. Et donc, elle n'a pas vraiment vécu, peut-être, son rôle de mère dans une certaine façon.
D'accord.
Elle a vécu à sa façon, voilà.
Donc ça, c'est par rapport à l'histoire, voilà.
La réalité.
Dani, ouais. Ouais. Et dans le spectacle, en fait, c'est pas un aspect sur lequel on a mis le focus. Hein, je crois, c'est vraiment nous, on s'est vraiment concentré sur l'histoire d'Dani, son histoire à elle, son voyage, son rapport avec avec les médias.
Ouais.
C'est bien. C'était la question qui allait venir. Non de bleu, ouais. C'est bien. Alors justement, quel est-il son rapport avec les médias? Est-ce qu'à l'époque, y a-t-il des informations qui nous sont parvenues sur un regard sceptique, sur un regard un peu piégeux comme ça, ou à l'inverse également, un regard d'encouragement et de saluer la pionnière comme voilà, c'est une époque où il y a quand même des pionnières et des pionniers un peu de toutes sortes. J'ai l'impression, même si effectivement, il n'y a pas du tout de parité, quoi, certainement, quoi.
Bah alors là, il y a de tout. Alors là, vraiment, au niveau des sources historiques, il y a les médias, évidemment, c'était des articles hein, à l'époque. Et il y en a des dizaines de plusieurs pays au fil de son tour du monde et qui disent tout et son contraire. Donc tout et son contraire parce que Annie disait des choses complètement fantaisistes d'une fois à l'autre qui ne concordaient pas. En fait, c'est assez intéressant, hein, mais c'est comme si elle n'avait même pas vraiment fait l'effort jusqu'au bout d'être crédible. Donc c'est même si elle était même au-delà de ça. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve, par rapport à ce personnage.
Les fausses identités.
Oui, elle essayait pas de dire la même chose un jour dans une ville et le lendemain dans une autre ville. Elle disait des choses contradictoires et ça, elle le savait pertinemment. Enfin, donc... c'était comme si elle défiait un peu les lecteurs et les journalistes de dire mais jusqu'où est-ce que vous allez me suivre dans cette folie quoi. Enfin,
c'est ça. Il avait une façon ludique de faire ça et ça c'est très intéressant parce qu'elle était elle était très intelligente donc c'est intéressant qu'elle a quand même joué beaucoup sur ça.
Et puis elle avait des journalistes qui la soutenaient vraiment tout au long et à n'importe quel prix et d'autres qui la démolissaient quoi. Il y avait vraiment et puis des combats entre les journalistes après qui se répondaient.
Il a fait parler d'elle.
Les quelques étapes là, moi que j'ai notées, peut-être que vous en mettrez quelques-unes à l'index. Donc c'est Boston, New York, on l'a dit, puis Le Havre, ensuite Paris, Marseille, Alexandrie. Elles seront ensuite à Colombo, Singapour, Saigon, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki. Et puis ensuite, c'est un peu le voyage de retour, enfin le tour finalement. San Francisco, à bord d'un vapeur belge. Et puis San Francisco, là, elle va en direction de Los Angeles. Elle traverse l'Arizona, le Nouveau-Mexique, et elle arrive à El Paso à la fin du mois de juillet 1895. Et tout au long du parcours, vous l'avez dit, elle donne des conférences pour raconter son périple. Elle atteint Chicago, terme de son voyage, le 12 septembre 1895. Voudriez-vous vous arrêter sur quelques étapes ou pas? Je sais qu'il y a un moment donné où elle arrive, je crois, au Japon, puis elle lit un article parue, enfin, c'est-à-dire qu'elle arrive avant qu'un article paraisse sur elle. Est-ce qu'il n'y a pas une anecdote un peu marrante à ce propos? Ça vous dit quelque chose?
Mais en fait, c'est qu'elle avait dit sur la guerre en Chine, vous dites.
Ouais, un truc comme ça.
Qu'elle avait raconté qu'elle a vécu la guerre, mais en fait, quand elle était arrivée, la guerre, elle était terminée depuis quelques semaines. Donc, elle a fait tous des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Donc, et quelques étapes. Mais je pense que en Europe, en France, elle a vraiment vécu sa libération. Et France, elle a accueilli ça. Mm-hmm. Elle a vraiment accueilli ça.
Elle était adorée en France. Elle a eu beaucoup de succès en France, Annie. Mm.
Et c'est là que son alter ego, Annie Londonderry, il est vraiment né, en fait. Pas au début du voyage. Parce que le début du voyage, voilà, de Boston au Chicago, après New York, c'était vraiment lourd. Et moi, j'imagine qu'elle était très seule, en fait, là-bas. C'était la naissance.
Ouais, ouais.
Et après, en France, elle s'est libérée et elle a dit, OK, moi, je suis ça. Je suis aussi avec le vêtement. Elle a vraiment créé les personnages que la presse a commencé à adorer. Et voilà, donc la France, c'est important.
Elle a quand même traversé la France à vélo. Hein. Ça, je crois qu'elle a quand même fait des bonnes parties en pédalant.
Elle a vraiment voyagé en vélo. Hein. Mm-hmm. C'est pas qu'elle a rien fait. Mais
elle n'a pas fait le tour du monde à vélo, voilà. Mais elle a quand même fait des bons tronçons en vélo. Elle a quand même dormi dehors. Enfin, elle a quand même été toute seule sur les routes, sur son vélo, avec sa jupe. Enfin, voilà.
Oui, mais elle était incroyable, en fait, pour cette époque-là.
Alors.
Et El Paso. El Paso, c'est la frontière. Et c'est presque le final de son voyage. Et El Paso, le livre raconte El Paso comme vraiment la ville d'Annie Londonderry. Donc c'était la frontière, c'était obscur, un peu plein de gens bourrés partout. On imagine ça, et elle qui faisait la fête avec eux. Et donc c'était un peu là-bas, c'était un peu la femme cirque. Et moi j'imagine ça, qu'à El Paso elle a trouvé un peu ses frères et ses sœurs, voilà.
D'accord. Le 2, 3, 8 et 9 novembre 2019, les vendredis et samedis à 20h, le dimanche à 17h. Le spectacle, c'est Annie. La compagnie, c'est la Cavalcade en scène. C'est à la salle du Môle, qui se situe à la rue du Môle 21. C'est à Genève, c'est au Paquis précisément. Les réservations se font sur le site www.mqpaquis.ch. Le site de la compagnie, pourrais-tu nous redire l'adresse, s'il te plaît, Élise?
Alors, c'est www.lacavalcade.ch. La cavalcade en un mot.
Merci beaucoup. Si des questions surgissent, eh bien, on peut y aller. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'ai encore quelques questions. Alors, cette arrivée triomphante, est-ce que ça a été tout de même, parce qu'on a des exemples actuels, hein, notamment de la part des médias, qui, même si quelque chose est accompli, on va le minimiser, on va tout de même l'invisibiliser. Alors, qu'est-il advenu pour le périple d'Annie? Est-ce que ça a été, selon vous, reconnu à sa juste mesure? Premier volet de la question. Et deuxième volet, c'est, et maintenant, pourquoi y a-t-il une forme d'oubli? Elle est finalement assez peu connue, ou peut-être me démentirez-vous? Alors, arrivée triomphante ou pas? Et deuxième partie, qu'en est-il de sa mémoire? Qu'en reste-t-il?
Alors arrivée triomphante, bah oui, son arrivée quand même, elle a été mise en scène, elle l'avait préparée, elle a annoncé qu'elle allait arriver et les médias étaient là, et puis il y avait ce débat qui faisait rage sur est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est une imposture cette femme en fait, et il y avait aussi quand même tous les gens qui la soutenaient, et puis voilà, donc on sait toujours pas si ce pari a existé ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a quand même fait pas mal d'argent en fait avec ce voyage, donc ça c'est aussi sa victoire, hein. Enfin, qu'elle ait fait ce tour du monde à vélo ou dans les trains ou dans les bateaux ou pas, ou enfin on sait pas, mais elle est sortie gagnante, hein, parce que en tout cas au niveau financier, et elle voulait aussi la gloire, elle voulait aussi être connue, et ça elle a complètement réussi.
Oui, il a été connu, mais comme vous justement disait, après pouf.
Là, voilà, elle a été assez rapidement.
Et ça, c'est vraiment le monde du spectacle, je pense. Et ça, c'est un thème qui nous parle beaucoup aussi, non?
Et vous, c'était une des ambitions de ce spectacle, une des aspirations, c'est de faire ressurgir cette aventure et cette personnalité.
Oui,
ouais, parce que alors par rapport au fait qu'elle est pas très connue actuellement, en fait, je pense qu'elle est pas très connue en Suisse et dans le monde francophone. Par contre, en Italie, elle est plus connue, et la raison à ça, ben, c'est évident, c'est que le livre qu'a écrit son petit-neveu, le livre documentaire sur Annie, et il l'a écrit en anglais et il a été traduit en italien, mais pas en français.
Pas encore en français.
Mais voilà. En fait, aux États-Unis, par exemple, ils sont en train de tourner un film sur elle. Donc, en fait, elle est connue, mais oui, on doit quand même bien la faire tourner. Donc,
Et vous-même, alors, en quoi vous identifiez-vous à ce personnage-là? Est-ce qu'en elle, il y a une part de chaque femme de ce monde? Est-ce qu'il y a également une part de chaque humain de ce monde qui est niché quelque part en Annie? Et si oui, lequel ou lesquels? D'accord.
Bah oui. C'est sûr que oui. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que c'est un spectacle qui parle à beaucoup de personnes. Et je pense pas seulement des femmes. Enfin, voilà, c'est aussi un peu l'incarnation de cette envie des fois de s'échapper ou peut-être de fuir. On peut dire aussi certaines réalités qui sont dures, certaines obligations sociales et toute la souffrance qui est liée à ça dans certaines conditions.
L'ambition aussi, c'est un thème.
Et puis
l'individualisme.
Ouais, puis qu'est-ce que ça comporte?
Le courage d'un déracinement.
Mais oui.
Le courage d'affronter des zones totalement hors de confort, totalement inconnues. On a du mal à recontextualiser ça parce que maintenant, effectivement, le monde devient de plus en plus un village. Alors Google Maps, et puis on peut se faire une idée du truc. Mm-hmm. Et on a des informations. On est même dans l'infobésité, hein, donc on a même trop des informations.
Ouais.
Mais à ce moment-là, pas du tout. Donc le loin, c'est très proche. Et puis le loin est vraiment obscur, j'ai l'impression. Enfin, vraiment inconnu, quoi.
Ouais.
Et puis moi, je voudrais encore ajouter, moi, en fait, c'est beaucoup aussi de l'admiration que je ressens par rapport à ce qu'elle a fait. Annie, dans sa liberté qu'elle avait, en fait, dans son rapport à sa vie, à sa vérité et à ce qu'elle en disait, et cette liberté qu'elle s'est vraiment permise, mais qu'elle a poussée très loin de raconter des choses, des anecdotes, des aventures et d'écrire.
En fait, oui. Ouais. Tout mon texte, c'est parti par rapport au mensonge. Comment utiliser les mensonges? Qu'est-ce que c'est, en fait, la limite entre une histoire qui en raconte et le mensonge? Donc ça, c'est très présent dedans, comme forme de liberté aussi. Mm-hmm. Et ça, avec les médias, oui, ça tombe bien. Donc,
Très bien, très bien. Des questions arrivent-elles, surgiraient-elles? Pas pour le moment. Alors, on arrive doucement à la fin de l'entretien. J'ai encore deux petites questions. Selon vous, quel serait, s'il fallait faire un équivalent contemporain d'Annie, lequel serait-il? Qu'est-ce que ferait, pourrait avoir, quelle serait l'idée, l'aventure ultime d'une femme actuellement? Est-ce que ce serait par exemple une femme cosmonaute? Parce que finalement, il n'y en a pas encore beaucoup. Ou est-ce que ce serait d'autres types de parcours qui seraient différents que des parcours géographiques? Ils pourraient être philosophiques, ils pourraient être intérieurs. Enfin, selon vous, y aurait-il encore des cheminements à parcourir comme ça qui pourraient nous rapprocher de l'aventure que Anya a vécue?
Ça, c'est beau, c'est une belle question.
J'aime bien. Bah, le voyage, je sais pas, parce que maintenant c'est devenu quelque chose de tellement banal, le voyage, que ce qui n'était pas du tout à l'époque d'Annie. Donc, pour moi, la comparaison, elle n'est pas dans l'exploration, disons, géographique, mais peut-être plutôt dans l'exploration de structures sociales ou de formes de vie qui soient différentes. Donc Annie, pendant 15 mois, elle a coupé les ponts complètement avec son mari et ses trois enfants, dont le plus petit avait moins de 2 ans. Donc c'est ça qui est complètement incroyable. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est encore... c'est ça peut-être à l'aventure. Enfin, je ne dis pas que c'est d'abandonner ses enfants, mais de sortir de certaines peut-être structures familiales. Quoi. Enfin,
ouais. C'est justement ça le défi. Et il était à l'époque, il est aussi maintenant, de sortir de quelque chose qui est là.
Pour vous, c'était important qu'elle ne sache a priori pas, enfin qu'elle ne soit pas une cycliste émérite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit par exemple des exploits sportifs. Moi, quand je pense à ça, à la question que je viens de vous poser, je me dis, oui, il y a des challenges incroyables encore à mener. Il y a des treks en solitaire que par ailleurs des personnes qu'on a interviewées font. Et qui sont extrêmement impressionnants d'être en autonomie complète pendant des semaines et des semaines dans des coins où il n'y a vraiment rien que des animaux dont on ne sait pas l'intention. Ça pourrait être un truc, l'alpinisme, l'escalade, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Des gens meurent chaque jour. Récemment, une jeune alpiniste est décédée sur un des monts de l'Himalayen. Mais ce sont des personnes qui, du coup, sont extrêmement entraînées pour ce truc-là. Là, on a en plus cette aventure incroyable de dire je me mets à un outil que je domine pas, en tout cas a priori, quoi. Ça fait quand même partie de cette aventure totale, pourrait-on dire.
Oui, je pense que je peux dire l'inconscience. C'est un bon parti de cette femme. Et une fois, elle a dit si j'aurais su qu'est-ce qu'il m'attendait, j'aurais jamais commencé le voyage. Et donc, oui. Mais vraiment, elle avait du talent naturel pour ça, mais elle n'était pas un cycliste.
La fin de son... Elle meurt jeune, 57 ans, elle meurt d'une pneumonie, je crois. Savez-vous si au lendemain, donc il y a le retour, il y a le moment du retour, et puis après, il y a le moment où il n'y a plus ce retour, où il est fini, il est caduque d'une certaine manière, il est un petit peu oublié. Savez-vous comment sa vie s'est continuée et comment sa vie s'est terminée? Est-ce que ça, c'est un petit peu dans le spectacle aussi, ou c'est pas le...
Non.
Ouais, alors c'est pas le sujet du spectacle, mais on peut peut-être dire quand même pour répondre à la curiosité qu'elle a fini sa vie de façon très discrète. Ouais. C'est assez intéressant. Elle est revenue, son mari, à ses enfants, et elle a travaillé avec son mari dans l'entreprise qu'il avait. Et elle a plus fait parler d'elle.
D'accord.
En même temps, peut-être qu'elle avait plus besoin parce qu'elle était sortie de ce dont elle voulait sortir. Donc voilà.
Mais oui, c'est ça, absolument. Alors, dernière petite question, peut-être la plus importante. Pourquoi faut-il venir ici, à la salle du Môle, pour voir le spectacle Annie, qui a cours dès ce soir à 20h et les 3, 8 et 9 novembre prochains?
Pour connaître cette femme incroyable et qui va parler, j'espère, on espère, à tout le monde. Et
Pour vivre ce voyage avec elle, en fait, suivre aussi avec vos émotions ce qu'elle a traversé, parce que là vous avez peut-être quelques clés, quelques explications théoriques, mais le propre d'un spectacle, c'est de faire ressentir les choses.
On a exprès pas empiété sur le spectacle, mais beaucoup parlé de la personne en tant que telle, avec des éléments factuels, mais maintenant les personnes vont pouvoir venir nourrir leur imaginaire. Et découvrir effectivement ces multiples histoires qu'elle invente tout au long de sa vie et tout au long de son parcours.
Venez.
Clairement. Alors, donc, on va résumer tout cela. La cavalcade en scène, ça, c'est la compagnie. Annie, c'est le nom du spectacle. Annie Londonderry. Le 1, le 2, le 3, le 8 et le 9 novembre 2019, vendredi et samedi à 20h, les dimanches à 17h, à la salle du Môle. Les réservations sur le site www.mqpaki.ch. Et maintenant, l'ensemble des personnes qui travaillent et qui ont travaillé autour. Alors, je vais prendre peut-être le flyer pour pas me tromper en rajoutant. Alors, idée interprétation, donc, Maria Licetta Liervini. Merci beaucoup à toi pour cet entretien.
Merci à vous.
Regard externe, Élise Perrin et Mario Scandal. Merci également de tout ça. Univers sonore, Nathan Jucker.
Jucker,
voilà. Voix, Yannick Merlin et Léo Vuy. Chorégraphie, Franco Reffo et les lumières, Mathias Mermot. Ainsi que à la technique, Luca Voisard, c'est ça?
Exactement.
Alors voilà, on remercie toutes ces personnes-là, bien entendu, et puis on vous souhaite bon courage. Y aurait-il, pour en terminer, une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre?
Oh, c'était déjà très...
Mais en tout cas, c'est alléchant. Hein. Après cet entretien, on a vraiment, en tout cas, nous ici, on a envie de venir voir. Certainement.
Trop bien.
C'est pas qui, c'est au centre-ville, c'est tout près. Il y a le tram 14 qui s'arrête là. Alors, Maria Licetta, effectivement, nous n'en avions pas parlé jusqu'à présent, mais il existe également une version en italien de cette pièce.
Voilà. Et il est né en italien, et après, il a été traduit en français, pas par moi, mais par une traductrice. Et voilà, donc, en fait, le spectacle, il a fait son début à Milano, au théâtre Linguaggi Creativi. Et après, il a continué son voyage à Neuchâtel, en Suisse, au théâtre de concert, où la compagnie est résidente permanente. Et donc, oui, aussi la version italienne, il va tourner en Italie l'année prochaine. Et donc, si vous êtes dans les coins, et contrôlez sur le site de la Cavalcade, et voilà.
D'accord. Et pourrait-on dire quelques mots des premières personnes que tu as rencontrées par le biais de cette pièce? Est-ce que les gens ont réagi? Est-ce que les gens, à la fin des représentations, vous accostent et vous posent des questions? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose?
Ah oui. Ils sont très intéressés par l'histoire, en fait. Et oui, il y a des gens qui veulent savoir plus sur les voyages. des gens qui... Oui, ça pose beaucoup de questions. Donc,
il y a des gens qui veulent des réponses, mais on les a pas toujours. Et le spectacle ne les donne pas toutes, évidemment. Annie les donnait pas non plus. Donc, il y a des gens qui sont vraiment très curieux de savoir. Mais alors, et ça, ça s'est vraiment passé ou pas?
Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et la famille voilà.
Parce qu'avec ces différents niveaux de fiction, donc entre vraiment la réalité, ce qu'Annie a fait ou pas, ce qu'elle a raconté, et ensuite ce que nous, on raconte dans le spectacle, même si nous, on est proche des sources qu'on a trouvées, il y a tous ces différents niveaux, et les gens, ils aiment... Enfin, pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a, à quel niveau.
Ça excite un peu la curiosité.
Ouais.
Ah, d'accord. Pourrait-on dire qu'il y a un avant et un après pour Annie? Il y a un avant et un après son projet. Y aurait-il peut-être un avant et un après pour les personnes qui vont venir voir ce spectacle?
Oui. On espère.
On s'arrête là?
Je peux vous dire une phrase.
Punchline.
Elle disait souvent.
Allez.
J'ai découvert ce que vous vouliez et je vous l'ai donné en abondance. Donc c'est vraiment le rapport entre elle et le public aussi. C'est un rapport d'amour.
Voilà. Parfait, le mot de la fin, magnifique. C'est tout bon. Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci
pour les représentations. Ciao.
Merci.